La traversée du cancer fut une descente dans un abîme de souffrance. C'est l'expérience du désastre, c'est-à-dire de l'effondrement du tout. Alors c'est un extrait, page 77 de cet ouvrage que je vous fais découvrir, chers auditeurs, et bonjour à chacun et chacune. La grâce d'altérité. Un récit d'Éric de Russe. Bonjour.
Bonjour.
Cet ouvrage est paru récemment aux éditions Salvatore. Et donc, j'ai lu un court extrait d'un des chapitres, oui. Puisqu'il y a 28 chapitres. Un livre qui se lit facilement, écrit avec une plume pleine de pudeur, aussi de bienveillance pour le lecteur. Et puis, on va dans le sens du sacré aussi, de la beauté avec ses luttes et ses combats, ses moments d'obscurité et ses moments de lumière. Et puis, ces moments aussi où face à l'altérité nous découvrons du début à la fin, il y a ces moments d'obscurité et puis de réconciliation, d'apprivoisement et de lumière et de grande lumière. Alors, cette traversée de la maladie, vous nommez le cancer, expérience du désastre et de l'effondrement. Qu'est-ce qui résiste à l'effondrement de tout, Éric?
Alors, il est vrai que dans cette évocation de l'altérité au fil de l'existence, s'est imposée l'évocation sobre et pudique de la maladie à 23 ans, donc du cancer, un cancer assez avancé à l'époque. Et donc, la question qui s'est imposée à moi, enfin quand j'ai appris le diagnostic, je raconte que j'étais très en paix parce que je me suis dit, eh bien enfin je vais savoir ce qui résiste à l'effondrement de tout, puisque pour moi la question était qu'est-ce qui demeure lorsque plus rien ne tient, qu'est-ce qui résiste à l'effondrement de tout, de toute chose, c'est ce que j'appelle l'expérience du désastre. Et donc il est vrai que la maladie vous ôte tous les points d'appui naturels et légitimes qui sont les vôtres lorsque tout paraît débuter dans la vie, où vous pourriez avoir des projets, vous projeter, etc. Là, tout est remis en cause et il y a une sorte de dénudation, de mise à nu, de vulnérabilité extrême, et donc vous êtes à terre, hein, tous les masques tombent et bien vous êtes face à l'essentiel. Et donc ce face-à-face, hein, avec l'essentiel par la médiation de la mort, hein, qui devient une réalité très proche et pas du tout une abstraction, puisque cela vous concerne à ce moment-là, c'est plus qu'une éventualité, c'est une très grande probabilité à laquelle vous devez faire face. Eh bien, ça vous reconduit vers ce dont vous êtes porteur. Parce que seules les ressources qui sont en vous vous permettront alors de vivre cette grande traversée. Tous les appuis extérieurs, vous en êtes alors dépourvus, dépouillés. Et donc, si dans votre intériorité, il n'y a rien, eh bien, c'est la misère. Et la véritable misère, j'ai pris conscience à cet âge-là, que la véritable misère, c'était d'être dépourvu de tout essentiel, de n'avoir rien su recueillir de solide et de substantiel dans son intériorité, parce que quand l'épreuve arrive, il n'y a rien de plus secourable que ce que votre âme vous offre comme manne, comme pain pour la grande traversée, pour cette traversée-là. Donc, en même temps, cette expérience, je ne cache pas, ça a été aussi l'expérience de la douleur. À l'époque, on soulageait encore très peu la douleur. Donc, c'est quand même l'expérience que j'appelle en effet de l'effondrement, du désastre. Mais en même temps, ça a été aussi, je le dis, la double filiation du désastre et du ravissement. Parce que pour moi, ce qui fut secourable plus que tout, bien sûr, ma fiancée à mon chevet, mais également, et à travers elle aussi, mais également la présence de celui que j'appelais le tout perdu en fol amour, le Seigneur, qui pour moi était cette présence invincible, indestructible, à qui je pardonnais de n'être rien que Dieu, car souvent on attendrait de Dieu qu'il vienne résoudre tous nos problèmes, mais Dieu n'est pas un magicien. L'amour n'est que l'amour, et la force de l'amour, c'est sa présence invincible, en dépit de tout, au cœur de tout, et lui est resté fidèle. Et j'ai pu donc découvrir que ce qui résistait, c'est cette présence à l'obscur, mais cette présence réelle.
Vous parlez aussi dans cette traversée imprima définitivement en moi un sentiment d'urgence.
Oui, alors je dirais que cette expérience, c'est pour ça peut-être que qu'elle s'est imposée au fil de la plume, c'est parce qu'elle est venue, je disais, rehausser l'altérité qui était déjà la mienne. C'est-à-dire j'étais doublement autre, ou une altérité qui était radicalisée, parce que non seulement bon, il y avait cette étrangeté au monde, mais alors là, le monde me devenait encore plus étrange, parce que je comprenais d'autant moins pourquoi on luttait à ce point pour se faire une place dans le monde, pour le pouvoir, pour la gloire, pour la richesse, alors que ces choses m'apparaissaient alors, j'en avais toujours eu conscience, mais là c'était indéniable, tellement inconsistante, alors que la vraie richesse est ailleurs. Donc oui, en effet, ça a rehaussé aussi le sentiment d'urgence, c'est-à-dire le temps nous est compté. Comme disait une mystique kurde, la vie n'est pas courte, mais le temps nous est compté. La vie n'est pas courte parce que toute vie peut atteindre sa plénitude dans le temps qui lui est offert. Mais par contre, le temps nous est compté. Et donc, quand on revient d'une région d'où l'on ne revient jamais entièrement, parce que quand on traverse les limites du langage, de la pensée, qu'on plonge en de telles profondeurs de silence, de lumière, de douleur, eh bien... on n'en revient jamais complètement, l'enjeu étant alors d'arriver à reconstruire quelque chose dans le monde, eh bien, on en revient avec une conscience de l'urgence. Le temps qui m'est confié, je ne peux pas, parce qu'il ne m'appartient pas, je ne peux pas le gaspiller en choses tellement inutiles, factices et futiles. Il faut vraiment le consacrer à l'essentiel, à la création, à l'amour, rendre ce monde moins inhabitable.
Donc on entend aussi combien il y a urgence et que ce temps est compté, et combien ce temps compté, précieux, il faut de devenir finalement au fond chacun des créateurs de beauté et de vie.
Oui, et c'est en ce sens que l'expérience de l'altérité que je décris, même si je le fais à partir de ma propre expérience, en fait, revêt une portée universelle, parce que celui qui a conscience d'être au service de la vie ne peut qu'expérimenter une immense étrangeté au monde, si j'entends par monde ce qui nous est présenté comme une norme ou comme ce qui devrait être désiré, et souvent qui ne sert pas la vie, souvent qui est au profit de la défiguration, du factice, du superficiel. Alors là, on éprouve nécessairement une étrangeté, mais il y a une sorte d'insurrection alors, car de la mort, nous devons remonter vers la vie avec encore plus de force, et de cette étrangeté, nous devons faire la matière d'un chemin, et... comme le disait Solzhenitsyn, peut-être que le grand enjeu, c'est de quitter ce monde en créature plus noble que nous n'y sommes entrés et de monter. Et pour les autres et pour ceux qui nous entourent, pour offrir un peu de lumière à ceux qui nous succéderont. Et en se disant que cette vie vaut la peine, surtout vaut la peine d'être vécue, et si on l'envisage à la manière des mythes, comme un parcours initiatique, comme une traversée d'une vallée qui nous conduit de la vie à la vie et pour la vie, vraiment.
Alors, on entend aussi ce mot vivre, vivre ou survivre. Au fond, il faut rester vivant pour faire cette traversée et ce dernier moment, ce dernier passage de la mort.
Oui, moi,
permettez-moi de réagir,
oui,
un peu autour de...
Vous avez tellement raison. Votre remarque m'évoque un mot de Maurice Zundel en disant « Le problème n'est pas tant serons-nous vivants après la mort que sommes-nous vivants avant la mort ?» Et je crois en effet que c'est l'enjeu, c'est de rester vivant jusqu'au bout. Ou comme le disait Bruno Walter de Catherine Ferrier, dont je parle aussi parce qu'elle me nourrit, de vivre en mode majeur, de vivre en mode majeur. Si souvent nous vivons en mode mineur, donc nous survivons, et moi qui suis un survivant, j'ai appris à vivre, alors que beaucoup qui sont a priori vivants dès le départ se rangent très vite du côté de la survie.
Et nous ne sommes pas appelés à survivre. D'une certaine norme peut-être.
Alors oui, parce que la norme est rassurante, parce qu'elle vient gommer le sentiment d'altérité, d'étrangeté. Je pense qu'il ne s'agit pas de le gommer, mais de l'habiter, de l'apprivoiser. et d'en faire la matière, justement, d'une offrande. Vraiment, en tout cas, c'est l'expérience qui est la mienne, d'en faire la matière d'une offrande. Et ce sont les derniers mots de ce récit, dans la grande nuit du monde, mon offrande d'amour. Alors évidemment, ma vie, je l'ignore, mais enfin, en tout cas, est encore en cours, évidemment. Et je pense que cette offrande dure autant que dure notre pèlerinage ici-bas et peut-être même se déploie bien au-delà.
Alors, j'ai presque envie de terminer en interrogeant ceux et celles qui vous écoutent depuis le début de la semaine. La grande question, est-ce que nous sommes des êtres encore vivants ?
Alors, vous savez, j'ai ce mot d'Emily Dickinson aussi que je cite parce que cette poétesse m'habite, c'est une amie selon l'esprit. Elle dit « Si peu de gens en vie sont vivants ». Et en effet, moi qui me suis cru peut-être si peu vivant parce que au départ, eh bien, j'ai réalisé que la vie n'était peut-être pas là où on me montrait qu'elle était et qu'il y avait une intensité de vie justement comme à laquelle mon altérité m'a ouvert. Je dis cette altérité a été la porte étroite qui m'a ouvert sur l'ample vie. Et donc, justement, c'est la question. Pour moi, c'est le critère, c'est le baromètre. Suis-je vivant ? Suis-je vivant ? Parce que le Seigneur, le Créateur me veut vivant, mais c'est un combat que de rester vivant. Et je crois que l'enjeu, le disait Zundel, c'est de rester vivant jusqu'au bout. Jusqu'au bout, rester vivant jusqu'au bout.
Cette émission du jour est terminée.
Merci.
Merci infiniment, Éric de Russe. Et bien, on peut lire votre récit avant de vous retrouver demain pour achever cette série d'entretiens, La grâce d'altérité, aux éditions Salvator. À demain et merci.
À demain, merci.